Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Monique qui habite Paris, donc qui a regardé la cérémonie de César et qui manifestement n'a pas été enthousiasmée.
Non, j'ai regardé jusqu'au bout. Parce que j'espérais que De Gaulle serait primé. Malheureusement, oui. Il n'a pas été du tout nommé. Mais alors ça a commencé avec Marina Foïs qui est arrivée avec un papier en disant que Foresti avait laissé sa crotte de chien de l'année dernière.
Il n'avait pas été sensible à ce second degré.
Ah non, pas du tout. Je trouve ça vulgaire. Oui. Bon, après, il y a eu l'autre, celle qui s'est fichue nue comme un verre, Maziero.
Voilà, Corinne Maziero, qui était entièrement nue sur la scène.
Elle n'est pas géniale, hein.
Ça, c'est je vous laisse libre de ce jugement personnel.
Moi, je n'avais pas vu, mais derrière, il y avait écrit Castex, rend-nous notre boulot, enfin, je ne sais plus quoi. Bon, ça, je trouvais ça complètement ignoble.
Avec une faute de grammaire, d'ailleurs, parce qu'elle avait écrit R-E-N-D. Elle a sans doute pensé que le verbe rendre était du premier groupe. Et elle a oublié le S.
J'ai des amis qui m'ont dit qu'il y avait un truc écrit dessus. Oui. Alors, en plus, ça m'a énormément. D'abord, elle est arrivée avec Podane. Bon, je trouvais ça un peu marrant, parce que ça rappelait Catherine Deneuve quand elle jouait dans Podane.
Bon. C'est pas exactement le même emploi Catherine Maciero que Catherine Deneuve, mais...
Non, mais ça m'a semblé bizarre, bon. Mmh. Ensuite, il y a eu... alors là, j'ai cru que j'allais tomber du canapé. L'autre, là, le De Dienne, quand il a cité Hitler. Mmh. Alors, il cite une phrase, il dit Hitler, une petite césure, Monsieur Hitler. Monsieur Hitler ? Non, mais attendez, Pascal... Non mais on est où là?
Convenons que c'est du second degré, voire du troisième.
Non, mais même en second degré, écoutez, moi, mon père était dans la deuxième DB, je refuse d'entendre des trucs comme ça. Non, on ne cite pas Hitler. Écoutez, moi je me rappelle des Césars, quand Romy venait chercher son César pour le vieux fusil, elle était d'une élégance, elle était bien coiffée et tout. Là on dirait des gitanes. Et alors après il y a eu Nathalie Baye, alors elle était la mère de... Alors c'était pour le mot merde. Enfin, écoutez, c'est vraiment une catastrophe.
Non mais quand il dit c'est quoi la prochaine étape...
C'est pathétique, je ne reverrai jamais ces trucs comme ça.
Quand il dit c'est quoi la prochaine étape, on va déboulonner des statues d'Hitler, on peut considérer que c'est du second degré. D'abord, c'est du second degré, mais là, il y a discussion, pour tout vous dire. Là, il y a discussion. Il y a un côté des proches. On ne peut pas dire qu'on aime des proches.
Je n'aimais pas des proches, alors, de toute façon.
Je rappelle que des proches entraient...
Je me rappelle de lui. Hein.
Oui, bien sûr, mais il y avait un sketch sur les Juifs où il disait, on m'a dit qu'il y avait des Juifs dans la salle.
Ah oui, je me rappelle très bien.
Bon, donc lui, effectivement, ça, c'est la...
Oui, mais qu'est-ce qu'il
la veine de des proches, cette phrase-là.
Oui, mais d'accord, bon, là, il parlait des Juifs, bon. Mais qu'est-ce que ça venait faire, les Hitler dans... Oh, non, ça m'a insupporté.
Bon, donc, vous n'avez pas du tout aimé. Mais vous avez des films que vous avez aimés quand même cette année? Est-ce qu'on parle... On sera avec Stéphane Boutsock, d'ailleurs, tout à l'heure, on pourra parler du palmarès.
J'ai vu que De Gaulle, moi, alors.
Ah oui, bah, effectivement.
Sortir, les cinémas sont fermés.
Non, mais sur Canal, vous avez peut-être revu des films qui étaient en lice.
Je n'ai pas Canal.
D'accord.
Je n'ai Canal que le soir pour regarder Yves Calvi. Parce que c'est en clair.
D'accord. Bah, d'abord, vous faites bien de regarder la Minif Calvi. Mais vous êtes une fan de cinéma, hein. Vous vous classez comme une cinéphile?
Oh oui, j'aime bien aller au cinéma. Hein.
Donc cette année, c'était exceptionnel. Un film, c'était assez exceptionnel.
Oh ben oui, parce que là, bon. j'en ai vu un là, quand on a été déconfiné. Je ne me rappelle même plus le titre. Je crois qu'on devient un petit peu cabourne, comme on dit chez moi. Mais là, je trouvais que c'était vraiment pathétique.
Bon, en revanche, vous ne m'avez pas parlé de l'acteur Jean-Pascal Zadi qui a eu envie de parler d'Adama Traoré.
Ah mais alors là, je ne me rappelle pas du tout.
Ah ben, c'était au début de la soirée, c'est pour ça. Vous étiez distraite par autre chose, peut-être, Monique.
Mais par la crotte de chienne de l'année dernière. Alors attendez, ce que je voudrais vous dire, Pascal, c'est que l'année dernière...
Alors tout le monde n'a peut-être pas regardé la cérémonie des Césars. Je précise que Marina Foïs est donc entrée sur la scène et elle a ramassé effectivement ce qui était une crotte de chien et elle l'a dit, d'ailleurs ça devait être une fausse crotte de chien quand même,
elle a dit,
faut toujours ramasser les restes de Florence Foresti.
Oui,
et elle a fait tout son petit speech avec une crotte de chien dans la main.
Oui, mais rappelez-vous l'année dernière, Adèle Haenel et Foresti qui se sont tirés de la cérémonie parce que Polanski avait le César du meilleur film pour J'accuse, qui est un film absolument extraordinaire que j'ai vu d'ailleurs. Je peux vous en parler là. J'avais adoré d'abord J'accuse, ces eaux-là pour ceux qui ne traitent pas J'accuse, pour les jeunes. Mais alors elles se sont tirées parce que Polanski avait. Et là, tout le monde. ne disait rien. On parle d'Hitler. Alors aussi, c'était du second degré à ce moment-là, Polanski, si on va par là.
Ah non, là, c'était pas tout à fait du second degré. Mais là où vous avez raison, c'est que ce qui est paradoxal, c'est que Jean-Pascal Zadi, lorsqu'il a parlé d'Adama Traoré, il faut savoir qu'Adama Traoré est soupçonné d'avoir obligé un co-détenu une fellation. Et c'est un viol. Et il n'a pas pu être jugé puisqu'il est mort, Adama Traoré, simplement.
Ah oui, il est mort, ce mec, oui.
Oui, c'est quoi, cet homme. Et, il est mort. Mais une commission a reconnu la matérialité des faits puisqu'elle a indemnisé son co-détenu à hauteur de 15 000 euros. Donc, il n'y a pas eu de jugement, mais la matérialité faits a été reconnue. Donc, là, c'est un viol. Donc, l'année dernière, effectivement, le viol était attaqué. Cette année, il était, d'une certaine manière, mis en exergue par Jean-Pascal Zadi. On va marquer une première pause, Monique. On écoutera Nicolas, un deuxième auditeur, et après, nous serons avec Stéphane Boutsock, le journaliste d'RTL, parce qu'on va lui demander de rendre des comptes. Quand même. Stéphane, il est déjà là, Stéphane, ou pas?
Mais oui,
il est là. Mais Stéphane, vous nous aviez vendu vendredi du glamour, vendu de la beauté.
Toute petite précision, je ne suis pas producteur, je ne suis pas auteur, je ne suis pas caméraman, je ne suis pas acteur. Donc si moi je veux bien tout endosser, mais allez, j'endosse tout. Mais ça mérite quand même qu'on nuance un petit peu, à mon avis, dans quelques instants.
Et c'est pourquoi je vous ai demandé de venir. Et puis moi, je tiens à préciser aussi que j'appartiens à un groupe, Cadel Plus, qui a produit la cérémonie, donc je le précise aussi pour les auditeurs, et la cérémonie était plutôt d'ailleurs bien produite, mais il y a un moment, tu n'es pas responsable de ce que les gens disent sur scène lorsqu'ils viennent récupérer un César.
Donc tout n'était pas écrit et tout n'était pas prévu à l'avance.
Bien sûr. Bon, à tout de suite, ami Stéphane, et on continue avec Nicolas également, vos interventions.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Tron.
De quoi avez-vous parlé ce week-end, Laurent Tessier? Il est possible que vous ayez parlé des Césars. Moi, j'étais frappé combien les gens s'appelaient, se téléphonaient, se retweetaient ou s'écrivaient en parlant des Césars.
Avez-vous été choqué par cette cérémonie? Question aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. La comédienne Corinne Massiero était entièrement nue sur scène pour crier la détresse du monde culturel.
Alors, j'ai un autre costume, si tu veux, si celui-là ne te plaît pas. Dernier, c'est qui veut la peau de Roger l'intermittent, parce que maintenant on est comme ça, tout nu, voilà.
Cette cérémonie doit-elle être une tribune politique? L'acteur Jean-Pascal Zadi, César du meilleur espoir masculin, a fait passer aussi son message.
Quand on parle d'humanité, on est en droit de se poser la question si l'humanité de certaines personnes n'est pas souvent remise en cause ou si souvent elle compte. Dans cette optique, j'ai envie de parler de Adama Traoré, j'ai envie de parler de Michel Zecler. J'ai aussi envie de dire qu'on peut se demander si notre humanité compte lorsqu'on voit que l'esclavage a été retenu comme crime contre l'humanité en 2001 et qu'aujourd'hui, sur l'espace public, certaines personnes qui ont activement participé au crime contre l'humanité sont glorifiées par des statues.
Vous étiez présent devant votre télévision, vous étiez à l'écoute de RTL. Qu'en avez-vous pensé? Le monde culturel est-il le plus à plaindre? Eh bien, Marie-Claude, sur la page Facebook de l'émission, parle d'une comédie pitoyable vendredi soir qui fait honte au cinéma français. Grotesque pour Phil l'an dernier, c'était déjà un tribunal, des jurés de cour d'assises, cette année des militants d'un meeting politique. Elisabeth parle d'une cérémonie de bobo au lieu de mettre à l'honneur le cinéma. Ces artistes étaient à côté de la plaque pour Julia. Et après, nous dit Jean-Luc, je peux comprendre le désarroi des artistes. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à être à poil en ce moment.
Vous avez peut-être écouté Stéphane Boutsock, vendredi soir avec Dominique Besnéard, avec Vincent Perrault. J'ai lu, Stéphane, tous vos tweets ce week-end et vous écrivez cela. Arrêtons de regarder dans le rétroviseur. Le cinéma de 2021 n'est pas celui du siècle d'avant. Tout a changé. Les artistes, l'humour, l'humeur, l'époque, même s'il est rude, dérangeant, vivons avec notre temps. Est-ce que j'ai envie de vivre avec l'humour de Corinne Massiero?
Alors, vous savez quoi? Je vais vous dire les choses clairement. Est-ce que tout m'a fait rire? Non. Est-ce que j'ai trouvé Corinne Massiero gênante? Oui. Mais en même temps, est-ce qu'il faut tout jeter de cette cérémonie? Non, moi je vous avoue que je me suis marré. Je comprends ce que disait l'auditrice avec laquelle vous avez commencé. Moi, honnêtement, le sketch de Dienne, il m'a fait rire parce que j'ai grandi avec les nuls, j'ai grandi avec Coluche, avec des proches, avec les Rodin des Bois. Oui, moi ça m'a fait marrer ça. Cette impertinence-là m'a fait marrer. J'ai trouvé que les hommages aux disparus de l'année avait vraiment de la gueule, pardonnez-moi l'expression. J'ai trouvé que l'orchestre de Benjamin Biolay apportait quelque chose d'extrêmement élégant. J'ai ri à certaines blagues et certaines vannes de Marina Foïs. pas à tout. Et après, je vous rejoins, les revendications, bah, c'était la soirée ou jamais. On célèbre le cinéma et le cinéma a vécu un truc, une catastrophe économique cette année. Donc c'était évidemment que ça devait servir de tribune. Mais est-ce qu'il y en avait trop ? Oui, à la longue, l'accumulation fait qu'on se dit, bon ben bah, d'accord, ils sont gentils, ce sont des acteurs, c'est pas les plus à plaindre. Mais la majorité de ceux qui se sont exprimés ont défendu les intermittents, mais aussi les précaires. Il y a des gens dans le cinéma qui n'ont même pas le statut d'intermittent et donc qui ne travaillent plus pour certains depuis 9-10 mois et qui ne touchent pas d'argent. Donc c'était logique que tout ça s'exprime. Après, ce que je veux aussi vous dire et vous préciser, c'est que tout n'est pas écrit. Ceux qui nous écoutent doivent comprendre ça. Il y a des répétitions et puis il y a des gens qui arrivent sur scène en ayant fait leur sketch de leur côté. Et je peux vous dire que c'est le cas de Corinne Massiero, par exemple. Elle était prévue, on savait qu'elle remettrait le César des costumes, on savait qu'elle arriverait en peau d'âne. Et pour le reste, je peux vous dire que Marina Foïs a découvert ça en même temps que nous.
Eh ben merci, merci Stéphane Boutoc. C'était bien de vous avoir en plus lundi parce que vous étiez avec nous vendredi. Je rappelle quand même que 1,5 milliard ont été donnés cette année pour compenser les pertes du cinéma français et qu'effectivement, le gouvernement, s'il était à l'écoute et il l'était vendredi soir, doit se dire...
Roselyne Bachelot était dans les... Alors, elle n'avait pas le droit d'être dans la salle parce qu'elle n'était ni remettante ni nommée, mais elle a assisté à la cérémonie de bout en bout.
Elle doit se dire tout ça pour ça. Parce que 1,5 milliard ont été donnés, hein. Quand même, il y a eu beaucoup d'aides qui ont été faites. Merci Stéphane, en tout cas. Merci grandement à vous et c'était toujours un plaisir de vous écouter, notamment vendredi soir avec les amis Dominique et Vincent. Nicolas. Bonjour Nicolas.
Oui. Bonjour Pascal.
Vous êtes président d'une association de théâtre et cabaret. Donc vous êtes appartenu à ce monde culturel.
Oui, en tant qu'amateur. Hein,
bien sûr, côté,
mais on est très très touché par ce qui se passe. Et j'entends effectivement l'auditrice précédente, mais ils ont réussi à faire passer leur message. Et c'était le but. C'était le but. On voit dans un autre domaine...
Ben ça, est-ce que c'est le but, précisément ? Est-ce que c'est le but d'une soirée comme ça, de faire passer un message ?
Mais bien sûr, mais c'est pas politique, c'est pas du tout politique.
Ah ben c'est complètement politique.
Mais non, pas du tout. Ah ben c'est par rapport à la situation actuelle. C'est par rapport à la situation actuelle.
Bah c'est de la politique.
Par rapport à un parti de gauche ou de droite. Non, pas du tout. Bah,
écoutez, franchement, on aurait dit, si vous me permettez, ça avait un côté meeting de la France insoumise, quand même. Je veux dire, quand vous parlez d'Adama Traoré...
C'est pour égratigner là où ça fait mal.
Vous savez qui est Adama Traoré ? De quoi on l'accuse ?
Oui, tout à fait.
Bah, attendez, c'est quand même pas rien. Ça s'appelle un meeting politique, monsieur Zadi. Pareil, de prendre la défense de Michel Zecler, moi je ne lui conteste pas, mais il fait d'ailleurs ce qu'il veut. Mais c'est un choix politique.
Reconnaissez que le message est passé. Vous savez qu'actuellement...
Ça pourrait être passé, il est bien passé, mais est-ce que c'est...
Je suis juste à côté d'Angers. Il faut savoir que les théâtres sur Angers, mais dans les grandes villes de France, sont occupés par les intermittents du spectacle actuellement. Ils y mangent, ils y dorment. Qui en parle ?
Oui, mais...
Qui en parle par rapport au message qui a été passé là, lors de la cérémonie des Césars ?
Mais tout le monde en parle, précisément. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. C'est qu'à l'Odéon, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'on parle aussi de plein d'autres choses. On parle des migrants, on parle de situations qui n'ont rien à voir avec le théâtre et la culture. Donc là encore, tu as parfois l'impression que ce sont des sit-ins de l'extrême-gauche.
Oui, peut-être, ça peut être vu comme ça, mais ce n'est pas le cas. Et ce sont des messages qui font passer. Vous savez, nous, à notre niveau en tant qu'amateurs, il faut savoir que le monde de la culture sont des gens qui ont du cœur, qui font pour eux, bien sûr, parce qu'ils aiment
je
ça.
Je pourrais vous dire qu'on n'avait pas le monopole du cœur, mais...
Mais bien sûr, on n'est pas les seuls. Puis je ne me vois pas artiste avec un grand A. Je ne suis qu'amateur.
Écoutez, moi, je vais vous dire, j'adore les intermittents et la culture. Vous bénéficiez d'un système, les intermittents...
Je ne suis pas du tout intermittent.
Non, mais je parle des gens de la culture. Il faut le dire, le système des intermittents, il est incroyablement avantageux. C'est un système que le commun des mortels, par exemple, Greg Caradoni, moi, etc., on n'a pas ce système-là.
C'est un monde à part, c'est tout.
Mais pourquoi pas ? C'est l'exception culturelle française.
Pascal,
pourquoi pas ?
Pascal, effectivement, on n'est pas les seuls à avoir du cœur et à donner pour les autres. Nous, je vais parler que de mon asso. On n'est que des amateurs. Mmh. On joue à 100% pour d'autres associations. On reverse tous nos bénéfices pour d'autres associations. Et quand on nous empêche de jouer, c'est on nous empêche de faire plaisir aux autres. On joue pour un enfant qui s'appelle Louis. Hein, il y a l'association, et j'invite tous les auditeurs à aller voir sur leur site, l'association Louis de Louis, L'OUIE de Louis. C'est un enfant qui doit se faire opérer cet été. Il ne peut pas se faire opérer plus tard. Il a une malformation de naissance, il est sourd à 100% d'une oreille. Cette opération ne se fait qu'aux États-Unis. Et il faut à tout prix trouver 45 000 euros pour que cet enfant puisse se faire opérer. Et bien, on ne peut pas jouer. Il faut aller voir l'association Louis de Louis, liker parce que c'est un système français. Il faut savoir que s'il n'y a pas assez de likes, les parents ne peuvent pas déposer de dossier de candidature pour des subventions.
J'entends, mais on s'est éloigné de la cérémonie des Césars, si vous me permettez.
Mais non, parce qu'on fait passer des messages, parce qu'on aime pour les autres aussi.
Mais je suis d'accord avec vous, mais le cinéma, c'est... il me semble que la cérémonie, ça peut être glamour, le cinéma c'est du rêve, le cinéma c'est autre chose, me semble-t-il.
Oui, mais
que l'image, est-ce que l'image qui est donnée par les gens du cinéma est la bonne pour le cinéma? Voilà.
Je suis d'accord, ça donne peut-être une mauvaise image, mais ils faisaient ça pour eux en tant qu'acteurs, mais il y a aussi les costumiers, les décorateurs,
oui.
Les preneurs de son et ainsi de suite, c'est tout un monde. Alors effectivement, vous me parliez des intermittents du spectacle tout à l'heure, c'est un monde complètement à part. Hein, moi je le côtoie de par mon côté amateur, je le côtoie aussi de par mon travail, parce que je côtoie des régisseurs de spectacle de par mon travail, mais c'est un monde à part, on ne peut pas comparer les choses.
Bon, bah merci en tout cas, Nicolas.
Allez voir l'association Louis de Louis, L'OUIIE. Il faut liker et vous allez voir, c'est un enfant qui a besoin de tout
mais
le monde.
J'entends
ça,
bien, mais j'entends bien, Nicolas. J'entends bien. Et je vous remercie effectivement de penser à lui. La pause. Et Greg Carnoni, vous étiez devant votre écran?
J'ai regardé une partie des Césars seulement. J'ai été touché notamment par l'hommage rendu à Jean-Pierre Bacri. Je trouvais que c'était.
Mais les hommages étaient vraiment
extrêmement bien faits.
Tout ce qui était produit en amont était très réussi. Bedos, Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant, c'était vraiment très très bien. Jean-Louis Trintignant qui a fait un petit poème, Marquise aussi mon visage, etc. Donc ça c'était bien, mais après, comme l'a dit Stéphane, effectivement, les gens qui viennent sur scène, qui prennent un prix, le producteur ou le cinéma français n'est pas forcément responsable. Tout le cinéma n'est pas responsable de ce qu'il dit, mais ça donne une image. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
La cérémonie des Césars vendredi qui fait causer, comme on disait jadis. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez dans le Puy-de-Dôme.
Le Puy-de-Dôme.
Votre...
Moi, je suis consterné. C'est consternant. Je trouve que depuis une dizaine d'années, ça va en déclinant. Mais là, c'était consternant. Moi, je dirais que le seul point positif, c'était les récompenses pour Dupontel, qu'il méritait, mais le reste, franchement, quelle image du cinéma. Et alors, les messages, ils sont pas là pour faire passer des messages. On est là pour récompenser des acteurs. C'est tout, des films. On n'est pas là pour faire passer des messages. Il y a des tribunes pour ça. Il y a des partis politiques, il y a des assos. Je veux dire, surtout des messages sur des personnages quand même très contestables. Traoré, son nom m'échappe maintenant, l'autre. Enfin, je veux dire, bon, basta, c'est pas là, on n'est pas des tribunaux, on n'est pas... ça donne une image minable du cinéma français, quoi. Il y avait des passages, on se serait cru dans les égouts de Paris, quoi. Donc, c'est quelle image. Moi, je suis consterné, quoi. Je veux dire, à part Dupontel, seul moment de plaisir et le seul moment de vérité, il n'était pas là. Faut qu'on se pose la question pourquoi. Et puis aussi, il y a une autre chose. On en a ras-le-bol qu'à chaque fois, le ministre de la Culture ou la ministre de la Culture en prenne plein la figure. C'est tellement facile. C'est tellement médiocre. Je veux dire, celle qui est là en ce moment, elle fait ce qu'elle peut. Je crois qu'on peut pas trop se plaindre. C'est pas elle qui décide en plus. Donc, je veux dire, faudra qu'un jour on revoie cette cérémonie des Césars, quoi. Je veux dire, Canal, pour qui vous travaillez, faut peut-être se poser les bonnes questions. C'est vrai, tribune de gauchos, tribune de bobos, tribune d'islamo-gauchos, je le dis. Hein. Donc, au bout d'un moment, ça va, quoi.
Bah écoutez, il y a John qui vous écoute et il est intermittent dans le Nord et je pense que John, il a dû bondir en même temps que vous parliez, Raphaël. Bonjour, voilà, John.
Voilà. Bonjour. Non, j'ai pas bondi parce que chacun a le droit d'avoir son opinion. Après, comme l'a dit votre auditeur avant, on ne connaît pas tous les régimes de métier ou de corps de métier qui existent dans la culture. Bon, en effet, je suis intermittent du spectacle. En effet, il y a des fois où on n'est pas... ce genre d'événements ne sont pas là pour faire des tribunes, ne sont pas là pour être, comme vous l'avez dit, des partis politiques, tout ça. Mais moi, je dis juste une chose, je dis merci Marina Foïs et merci Corinne Massiero, parce que ça fait un an qu'on est dans la merde, excusez-moi pour le terme, et que ben actuellement, on a pris des théâtres, des intermittents, gentiment, ont pris des théâtres, il n'y a pas de violence, il n'y a rien du tout. Tout ce que sait dire notre ministre de la Culture, c'est « Ouh là là, c'est dangereux, parce que d'un point de vue sanitaire... » Et après, ben, Madame Bachelot était choquée des propos de Marina Foïs. Ben oui, elle a dit tout haut ce que ben nous, le milieu de la culture, on pense, qu'on essaye de faire dire, qu'on essaye de faire entendre, et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Un an, Monsieur Pro, je suis intermittent. Alors vous l'avez dit, on a un régime un petit peu avantageux. Ben, avantageux. Alors oui, parce que quand je travaille pas, en effet, je perçois une indemnité de Pôle emploi. Maintenant, je n'ai pas choisi le métier intermittent pour percevoir une indemnité de Pôle emploi. J'ai travaillé le métier intermittent du spectacle pour pouvoir me produire et travailler et gagner ma vie. Malheureusement, depuis un an, je ne la gagne plus, ma vie. Et bah là, oui, en tout cas, bah, moi, le message de Corinne Massiero et celui de Marina Foïs.
Sauf que votre système, par exemple, quelqu'un qui est barman ne travaille pas depuis un an,
oui.
Mais il ne bénéficie pas du même statut que vous.
Ah,
donc ce qui m'amuse toujours, parce que moi je trouve ça très bien l'exception culturelle et j'ai pas envie de critiquer forcément mais les systèmes. Mais ceux qui se réclament le plus d'égalité ou qui en réclament le plus, et notamment on retrouve ce type de personnes dans la culture, sont ceux qui bénéficient pour l'allocation chômage d'un système qui est juste parfaitement inégalitaire par rapport au régime général.
Ah mais Monsieur Pro, je vais dire, je suis entièrement d'accord. Après,
ah oui.
je me
répète. Ça serait difficile de pas être d'accord.
Non, mais je répète, Monsieur Pro. Mais non, mais les barman, t'as ça, d'accord. Mais ils sont dans le même cas que nous. Et vous pouvez voir que
oui, mais ils ne bénéficient pas du même régime. C'est ce que je vous dis. Le régime général est moins avantageux que le régime des intermittents.
On ne fait que ça, d'essayer de soutenir ces barman, parce que les barman aussi,
oui.
Grâce aux intermittents, peuvent travailler. Et ils le disent eux-mêmes, des fois. Le fait qu'il n'y ait plus de concerts dans les petits théâtres de machin, etc., ben ça leur apporte du travail. Alors nous, on n'en a pas de travail. Alors ok, on touche un salaire d'intermittent. Et eux, ils ne bossent pas non plus. C'est encore pire. Donc après, là, on parle du régime général, régime d'intermittent. Je ne voulais pas moins dire ça. En effet, j'ai de la chance d'être intermittent en France. Je le répète, j'ai de la chance.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens se battent pour être intermittents, hein, bien souvent. Hein.
On se bat parce que ça, c'est un métier, d'aller trouver des cachets, on bosse, on n'est pas, on attend. Moi, malheureusement, j'attends depuis un an chez moi.
Mais je suis d'accord, et en plus, nous, on est militants pour rouvrir les cinémas, les théâtres, voilà. Etc. Mais bon, est-ce que cette soirée-là doit donner cette image-là? Est-ce qu'à l'arrivée, c'est une bonne image qui a été donnée de la culture et du cinéma français? Je vous pose la question, John.
Oui, c'est une bonne image ou pas bonne image, Monsieur Pro. Le problème, c'est que ça fait un an que malheureusement, il ne se passe rien et qu'on en est au même point. On a fait un tour, là, et c'est retour à la case départ. Ça ne bouge pas d'un point de vue des politiques, etc. Et donc, il y a deux personnes qui se sont permis d'ouvrir leur bouche et de faire une action. Alors, on va nous dire qu'on est un peu, on se moque de nous, hein, la France et la risée par rapport à cette cérémonie. Mais peut-être que si des mesures autres depuis un an avaient été...
Non, mais c'est une certaine couleur aussi, convenons-en, c'est une certaine couleur dans cette cérémonie. Jeanne Balibar en tailleur Chanel qui parle de la loi sécurité-liberté. Voilà, ça fait un peu sourire, c'est ça que j'ai entendu tout le week-end, donc je me fais le porte-voix aussi de ce que j'ai entendu. Il y a cet esprit-là qui a existé dans cette soirée. Mais restez avec nous, John et Raphaël, parce que nous marquons une pause et nous revenons.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous fait réagir au 32-10 depuis le début de l'émission. Avez-vous été choqué par la cérémonie des Césars? Doit-elle être une tribune politique? L'acteur Gérard Jugnot était l'invité dont refait la télé samedi sur RTL. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été fan du spectacle.
Ça aurait pu être militant et politique avec un peu de légèreté et d'humour. C'est ça que je reproche plutôt, parce que c'est vrai qu'on souffre. Hein, mais bon, il ne faudrait pas faire croire aux gens qu'il n'y a que les artistes qui souffrent dans cette période... C'est quand même pas que la faute du gouvernement s'il y a un virus de merde. Ça manquait sévèrement de légèreté, quoi. C'est pas ça qui va donner aux gens l'envie de retourner au cinéma. Je crois qu'il aurait fallu que l'orchestre joue pendant ce Titanic. Et là, il jouait un peu faux, quoi. Mais bon, voilà. Les Césars, c'est toujours été un peu comme ça, quand même.
Ces artistes étaient-ils dans leur rôle vendredi soir? Certains ont-ils été trop loin? 32-10, 3-2-1-0 dès maintenant.
Ça n'a pas toujours été comme ça, quand même. Il n'y avait pas ce côté happening qui a existé l'autre jour, même s'il a bien résumé les choses avec quand même beaucoup de nuances, Gérard Jugnot. Je reviens juste sur le régime classique et intermittent parce qu'on était avec John. Moi, je vais prendre juste un exemple. Celui qui cotise au régime classique, hein, qui a travaillé 610 heures, il sera indemnisé durant 4 mois pour un total de 6500 euros. C'est un exemple. Alors qu'un intermittent ayant travaillé 507 heures, donc moins, au même salaire, recevra en 8 mois entre 14 000 et 15 000 euros. Donc c'est un rapport, les indemnités, c'est souvent d'ailleurs contesté. Alors la légitimité de ça, c'est de dire, hein, John, c'est que pendant que vous ne travaillez pas, vous êtes dans une phase de création et on considère que vous n'êtes pas payé, mais que l'État indemnise, subventionne d'une certaine manière le travail de création. C'est bien ça ?
Non mais c'est, le truc c'est que c'est pas ça en fait. Oui, je touche une indemnité, Monsieur Pro, d'accord. Maintenant, l'indemnité quand on est intermittent, elle est faite pour être un complément des cachets que nous touchons. Donc le truc c'est que là, on nous empêche d'avoir des cachets. Moi, quand j'ai des cachets, je fais environ. Je vais vous le dire, hein, j'ai pas peur. Si je fais environ 10 belles dates pendant ma tournée, allez, entre 8 et 10 dates par mois, je vais toucher de la part de Pôle Emploi entre 250 et 300 euros de complément. Par contre. Ben oui, parce que mes cachets ont payé mon salaire mensuel. Voilà. Mais là, par contre, je ne travaille pas. Et donc on
non, mais là, en ce moment, c'est particulier. Mais en général, c'est un statut qui est privilégié. Donc, c'est un fait. Mais je le répète, pourquoi pas, là encore hein, ça, on peut considérer que les artistes dans la société ont une place à part et qu'il faut les encourager, les aider, etc.
Oui,
pourquoi pas
privilégié, oui, je veux bien. Par contre, ce qui serait bien, c'est de faire
le
attention.
Le statut. Je ne dis pas que vous êtes privilégié. Je dis que vous avez un statut qui l'est. Hein. C'est, les mots ont un sens. Le statut des intermittents est privilégié par rapport au statut du régime classique. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je ne veux surtout pas entrer dans une polémique au-delà de ça, parce que je sais que c'est un sujet sensible. Alors restez avec nous aussi, parce que Jean-François est animateur de radio, et il va pouvoir intervenir sur la soirée des Césars.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je voulais juste rebondir par rapport à juste à un moment qui m'a. Il y a deux ou trois moments qui m'ont bien plu. C'est personne n'a parlé du moment magique quand le Splendide est arrivé sur scène. Ça, c'est les Césars, comme on devrait le voir plus souvent. Le Splendide avec Junio, etc. Ça, ils nous ont vraiment fait rire, et puis c'est ça, les Césars doivent ressembler à ça. Alors quand ils ont dit qu'on ne donne jamais de César aux comiques, etc., c'est tout à fait vrai, et pour une fois que c'est arrivé, ils ont été à la hauteur, que ce soit Clavier et toute la bande, et ils ont vraiment, vraiment fait ce qu'il fallait pour que les Césars soient agréables, et on a vraiment passé un très 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 bon moment grâce à eux. Ça, c'est... Personne n'en a parlé, donc moi je me permets d'en parler.
C'est vrai que ça a été noyé dans le reste de la soirée où les critiques étaient vives.
On a pleuré presque quand moi je pleurais de rire tellement que c'était entre Junio, Clavier qu'on a rajouté une couche à la fin, Michel Blanc et puis l'ermite avec son costume du Père Noël est une ordure. Ben, vraiment, voilà, César devrait ressembler à ça du début de la soirée jusqu'à la fin de la soirée.
C'est le costume historique en plus parce que c'est le costume qu'il jouait et qu'il portait sur pièce, sur scène.
C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et puis, comme vous avez passé l'extrait de Junio, parce que j'ai écouté samedi quand il a parlé, mais il a aussi parlé de la boulette. Bon, moi, je ne critique pas parce que je ne le connais pas en vrai, donc je ne peux pas en parler. Mais Laurent Lafitte a fait aussi une erreur quand il a parlé des LBGT, si je prononce bien.
Mmh. Et c'était plutôt lui LGBT, remettre... d'ailleurs.
Voilà, c'est lui qui devait remettre les Césars au Splendide, et il a comparé les LGBT, etc., au César des comiques. Bon, vous relirez la phrase, il l'a dit beaucoup mieux que moi, mais ça, c'était un truc aussi à éviter, ça a fait un peu polémique et un peu scandale aussi.
Eh bien, merci Jean-François.
Je voudrais souligner aussi que je suis tombé par hasard, parce que je regardais aussi l'hommage à Mike Brandt, sur deux moments où j'ai eu de la chance, c'était...
Attendez, là, vous me parlez de quoi ?
Je vous parle des Césars quand ils ont rendu hommage à Bacri et à...
Oui, mais pas à Mike Brandt. Pourquoi Mike Brandt ?
Parce que il y avait les deux en même temps, donc je zappais sur une chaîne.
Ah oui, d'accord, j'avais pas compris, excusez-moi. Voilà. Donc vendredi, vous zappiez entre un documentaire sur Mike Brandt qui était sur France 3.
En 2021.
D'accord. Et donc effectivement.
Je suis tombé par hasard sur les deux moments magiques de la soirée aussi.
D'accord.
C'est l'hommage à Claude Brasseur et à Bacri que moi j'ai pleuré.
Et à Mike Brandt, c'était un de vos chouchous peut-être ?
Oui, tout à fait.
Laisse-moi t'aimer.
Mais je voulais souligner que les hommages qui ont été faits à Bacri et à Claude Brasseur
étaient très réussis. Tous les hommages, vraiment, Brasseur était formidable.
Oui, tout à fait.
Merci Jean-François. Une pause et nous revenons avec Elisabeth et Foued qui nous attendent au standard. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Elisabeth, bonjour.
Bonjour.
Qui habite en Indre-et-Loire.
C'est ça, une très jolie région. Donc, je vais vous dire que je suis très triste. Mais alors, triste. Quand j'ai vu cette soirée, enfin, j'ai entreaperçu, parce que je vous avoue que j'ai arrêté, hein. Mais cette vulgarité, c'est ça la culture ? C'est nous montrer la vulgarité, de dire merde, de dire je sais pas quoi, c'est ça la culture ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas la culture, ça ! Et le spectacle, l'exhibition de Machine Chouette, là, comment ça s'appelle ? Corinne
Massiero.
Oui, mais enfin, la culture, justement, c'est un corps de femme, ça doit être un corps désirable. C'est ça la culture ! Un corps de femme, c'est beau, mais alors là, c'est l'horreur. excusez-moi, on n'en a pas envie. Hein. Alors on va dire que je suis peut-être pas féministe, j'en sais rien. Mais je suis désolée, une femme doit être désirable. Bon, enfin, mais on arrive où? Mais alors la culture, là, ces gens-là dont on a vu, là, en plus, c'est le centre du monde. Il n'y a qu'eux qui existent, il n'y a qu'eux qui souffrent. Voyons, c'est certain, les autres ne souffrent pas dans cette pandémie. Les éboueurs qui n'ont pas de cotisation, qui n'ont rien, non, ils ne souffrent pas. Parce que la culture, c'est ce qui fait vivre. Mais je pense que la caissière du supermarché, c'est pas d'aller au théâtre ou du cinéma, c'est sûr, ça lui manque. Mais ce qu'elle veut, et il y en a beaucoup qui sont au chômage, c'est de pouvoir donner à manger à ses enfants le soir. Mais elle pourra leur donner à manger quoi? Des pâtes et des pommes de terre. Mais quand elle verra un très beau gâteau, elle dira non, je ne peux pas l'acheter. C'est ça, les gens souffrent. Alors, c'est pas la faute du gouvernement. Je suis désolée, je suis pas pour ou contre le gouvernement. Je suis furieuse contre les vaccins, ça c'est sûr. Mais c'est la faute du virus. Enfin, ils sont... Je pensais que c'était des gens intelligents, quand même. Bon, on fait ce qu'il faut pour eux. Ah, moi, je suis furieuse et je suis très triste. Parce que je vais vous dire une chose. C'est que maintenant... Je n'ai plus envie d'aller au cinéma, de voir ces gens-là qui s'exhibent comme ça, qui sont vulgaires, qui sont pitoyables, quand on dit merde, n'importe quoi, là, dans une... Non, mais c'est de... Moi, je m'attendais...
Il y a eu un sketch, et vous faites référence à un sketch.
Oui, mais le sketch, Hitler aussi. Non, mais on va où? Mais attention, c'est qu'ils se croient très intéressants, hein. Oh, c'est les plus intelligents, le centre du monde. Non, il y a plus qui ont un cerveau, les autres n'en ont pas.
Il y a eu un sketch entre Nathalie Baye et Marina Foïs. Comme vous le savez, Nathalie Baye a une fille qui est artiste.
Oui, oh bah
la
oui.
La fille qu'elle
oui.
a eue avec Johnny Hallyday, qui s'appelle oui. Laura Smet. Et oui, il se trouve que cette fille est actrice. Donc c'est une mère, M-E-R-E, oui. de, une mère de. Bon, et ils ont joué là-dessus
oui, bah c'est sur
« Tu es une mère de... »
Bon, franchement, c'est ça la culture.
Je précise, alors donc Nathalie Baye disant oui, bah, on peut être une actrice et une merde, une oui. merde. Alors oh, bon, c'était voilà, c'est. Est-ce que ça passait la rampe ou pas hein. Manifestement, pour vous, ça ne la passait pas, Elisabeth.
Ah non, c'est pas drôle à force. Je vous dis, on s'attendait justement en temps de cette pandémie d'avoir un spectacle, un beau spectacle qui nous distrait, avoir de belles choses. De bons commentaires.
Alors là, il y avait des bons commentaires sur RTL, mais c'est vrai que c'était pas glamour, quoi. Disons-le, ça faisait pas rêver.
On est tombé bien bas.
Mais vous êtes une amatrice de cinéma, par exemple. Vous êtes. Vous aimez le cinéma?
Ben, j'aime les bons films. Et oui. puis les films.
Ah, on vous a perdu là, Elisabeth.
Oui. Là, j'ai apprécié le Splendide. Il faut dire que Gérard Jugnot a très bien conclu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous
mais
dise
ça, mais ces soirées-là, qu'est-ce que vous en attendez, Elisabeth?
Ces soirées-là, c'est ça, je les vois glamour. On voit des jolies choses, des beaux sketchs, vous voyez Avec un bon parler français, parce qu'on parle de moins en moins bien le français. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous apporte quelque chose. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Alors, on avait une tribune politique. Alors, attendez, je vais m'attirer des foudres, mais un peu gauchiste. Quand même, hein. La tribune politique, là, elle était bien orientée. Ben, c'est pas ça la culture. La culture, non, la culture, c'est pas la politique. La culture, c'est du Verdi aussi. C'est du beau théâtre. C'est des bonnes pièces. Et il y en a eu des bonnes pièces. Il y en a des belles pièces. Mais là, on l'a pas vu, ça. Ça, on a vu que des revendications, de la vulgarité. C'était pitoyable. Alors, c'est ça la culture pour nos enfants, bravo.
Bon, moi, John, qui est intermittent, il veut répondre, John, à Elisabeth?
Bah non, juste quand on a parlé de la, apparemment de la cette dame, cette actrice qui s'est mise à nu, apparemment si ça avait été une plus jolie femme, ça n'aurait pas fait tant de apparemment.
Ah oui, c'est vrai, ça n'a pas vraiment fait.
Voilà, donc on aurait eu Nathalie Baye ou je ne sais qui se serait mise à nu avec le même message.
Oh, ça n'aurait pas dérangé
parce qu'elle est mieux taillée. Moi, ce que j'ai juste à dire, c'est que madame, par rapport à ce que vous dites.
Oui.
La culture, on parle beaucoup de la culture en effet, mais je suis le premier. Alors, et on est très nombreux à être solidaires des caissiers, etc. Parce qu'on constate tout ça, parce qu'on a que ça à faire d'aller éventuellement nos courses, s'occuper de nos enfants, parce qu'on travaille pas. Et on est pareil, outré de voir tout ce qui se passe. Et on est solidaires des éboueurs, des caissiers et tout ça. Maintenant, ben la culture, par rapport à tout, elle fait vivre aussi économiquement. Et c'est pour ça aussi que le monde de la culture se soulève, parce que économiquement, la culture permet de faire vivre bon nombre de corps de métier. Quand on va voir un spectacle, quand on va voir une pièce de théâtre, on s'arrête au bistrot du coin pour aller boire un coup, on achète un sandwich, éventuellement, on va prendre une chambre d'hôtel pour rester et puis peut-être visiter la ville. Donc tout ce circuit économique, il est hyper important et ça, faut pas l'oublier.
Et la culture, monsieur, je l'oublie pas. Et le gouvernement ne l'oublie pas. Ils en sont les premiers contraints et tout, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils essayent de faire le maximum. Mais bien sûr, tout le monde en est conscient. C'est une chaîne. Tout le monde en est conscient. Mais comme vous dites, les éboueurs et tout, il ne faut pas des tribunes politiques sur un théâtre de l'Olympia. C'est ça, tout le monde en est conscient. Tout le monde essaye d'être solidaire, justement. Mais là, non. Là, ça n'a pas été le cas. C'est ça le problème. Et je comprends. C'est toute une chaîne qui en souffre. La culture et c'est les autres. Mais le gouvernement en est bien conscient. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On est en train d'envoyer 100 malades dans toute la France. Les pauvres, je les plains. Bon, et voilà où nous en sommes. On veut pas confiner parce que ça va être pire que tout, mais que faire? Et la culture est comme les autres. Alors c'est pas la peine, moi j'ai pas fait une tribune politique.
Bon, bah écoutez, c'est intéressant d'écouter Elisabeth parce qu'elle est remontée et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se reconnaître un peu dans le discours d'Elisabeth. Elisabeth et John qu'on retrouve après la pause.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Et nous attendons sur d'autres sujets au standard. Le vaccin AstraZeneca vous inquiète-t-il? Il continue de faire parler de lui. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont suspendu par mesure de précaution la vaccination de leur personnel après la survenue d'effets indésirables chez un pompier. Il a été hospitalisé pour une arythmie cardiaque après sa première injection. Et alors que certains pays en Europe ont annoncé la suspension de l'utilisation de ce vaccin, le Premier ministre Jean Castex s'est voulu rassurant hier soir. Il était sur la plateforme Twitch.
On n'a pas suspendu parce que nous ne disposons pas d'éléments. Si j'avais le moindre doute,
vous demanderiez la suspension.
Absolument. C'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Mais à ce stade, il faut avoir confiance dans ce vaccin et se faire vacciner.
Vous réagissez sur nos réseaux sociaux. Notre seule porte de sortie, c'est la vaccination. Lancez Eric, il faut vacciner et encore vacciner. Je n'ai aucune angoisse, écrit encore Patricia sur la page Facebook RTL. Les auditeurs, la parole des effets indésirables ne me surprennent pas. Ça existe. Partagez-vous ces avis. 32-10. Et puis, en toute objectivité.
Bah oui.
Le FC Nantes a battu hier soir le PSG au Parc des Princes de Buzyn. Amis parisiens, vous êtes inquiets pour la course au titre? N'hésitez pas à nous appeler, hein. On est fair play.
Celle-là, je n'avais pas vu venir. Fouette, bonjour, qui habite Strasbourg. Et il est enseignant, Fouette, et il nous donne bonjour de ses nouvelles régulièrement.
Oui, oui, assez régulièrement.
Bon, vous avez vu cette cérémonie vendredi soir?
Alors, je ne l'ai pas vu entièrement. J'en ai vu un petit peu un résumé condensé via les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'a dérangé, alors, je peux entendre ce qui est dit, ce qui est dénoncé sur le fond, mais sur la forme, ça peut qu'être remis en cause. C'est-à-dire là, normalement, on avait les Césars, il me semble que c'est fait pour récompenser les membres les plus talentueux du cinéma français. Moi, j'ai pas vu beaucoup de talents, malheureusement, vendredi soir, parce que en voyant ça, j'avais l'impression de voir une assemblée générale de gilets jaunes de Saône-et-Loire, et c'est pas nécessairement un compliment dans ma bouche. Donc, j'ai trouvé ça vraiment outrancier, lourdingue, et limite, j'ai l'impression, quand on regarde un petit peu les réactions de des auditeurs précédents, j'ai l'impression que ça a complètement desservi leur cause. Et je pense qu'à l'heure actuelle, les Français avaient peut-être besoin d'un peu plus de légèreté, de quelque chose qui transcende un petit peu. Et là, vraiment, c'était un petit peu, c'était lourd, c'était lourdingue, c'était beaucoup de facilité. Moi, je vois pas ce qu'il y a de rebelle en 2021 de se mettre à nu sur scène et de dénoncer, de taper sur le gouvernement, sur la mise de la culture. C'est un peu convenu, un peu convenu, un peu facile, quoi.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est le côté contre-productif. Et là, tu t'interroges toujours sur la motivation de ceux qui font ça. Ils sont pas idiots. Ils savent bien que ça ne sera sans doute pas efficace, mais ils le font quand même. Alors c'est peut-être une manière de se mettre en scène, de se mettre en avant, de se mettre dans la lumière, que sais-je. Mais évidemment, la démarche n'est pas efficace. Finalement. Comment ?
Finalement, on en parle. On n'a parlé que de ça, d'ailleurs, moi.
Oui.
Le seul point positif que j'y trouve, c'est que finalement, on a peu parlé de coronavirus ce week-end. Et ça... C'est ce que je vois à peu près de positif, mais c'est tout.
Merci Foued, merci. Merci beaucoup. Jean-Claude, bonjour Jean-Claude, qui habite dans le Lot-et-Garonne.
Tout à fait, bonjour Monsieur Pro. Si vous permettez, moi j'aurais bien voulu séparer d'une part la forme et le fond de cette soirée. Mais bon, on aurait dû se méfier quand même, parce que la bande-annonce, souvenez-vous, qu'on a vu toute la semaine précédente de cette cérémonie, qu'on voyait Marine Foss qui terminait son exposé par un P, on aurait dû se méfier, et la soirée était en cacophonie avec elle. Elle a dû faire, à mon avis, les autres études scatologiques dans sa jeunesse. Bon, ceci dit, Je dirais que c'est très tendance pour certains et certaines artistes de se présenter nus sur la scène. On a vu un précédent, souvenez-vous, à une soirée des Molières, il me semble bien. Cela marche à tous les coups parce qu'on est assuré d'avoir une éphémère retombée médiatique. L'exhibition, pour certains, remplace sûrement le talent. Hélas. Bon. Et peut-on imaginer une seule seconde, même pas une seconde, Romy Schneider, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, dans une pareille mascarade. C'est tout. Voilà. Bon, ça c'est la forme, et puis je passe sur tout ce qu'on a pu entendre auparavant, de discours politiques très orientés, bien sûr, comme il se doit, les réclamations sur leur propre, comment dirais-je, régime. Ceci dit, le cinéma français, je pense quand même que c'est une vérité, et un des cinémas les plus subventionnés au monde. Le régime des intermittents est unique au monde. Et les producteurs d'aujourd'hui de cinéma ne prennent plus aucun risque. N'importe quel nanar qui sort de leurs mains est pratiquement remboursé par le CNC. Donc, effectivement, ce sont tous des grandes victimes. Bon. Mais
alors, quand vous dites subventionné, il faudrait entrer dans le détail. C'est un système, effectivement, de financement du cinéma français, où notamment Canal+ est obligé, par son cahier des charges, d'investir à hauteur d'un certain pourcentage de son chiffre d'affaires. Et puis, lorsque vous allez au cinéma, vous voyez très souvent le conseil régional de telle région, si j'ose dire, à participer au financement, etc. Oui. Là, vous avez raison. Ce qui fait qu'un film, et c'est un peu pervers, un film, avant même qu'il soit en salle, généralement, il peut être déjà rentabilisé. Il a été... Et il y a trop de films français, il y a entre 200 et 250 films français qui sortent par an, et il n'y a évidemment pas le talent pour 200 ou 250 films français, bien sûr. Il n'y a pas 250 réalisateurs qui ont quelque chose à dire en France, ou qui ont le talent de le dire.
C'est exactement ce que je voulais vous dire. Vous voyez, vous m'avez volé ma prochaine phrase. Effectivement, 200 films par an pour un pays comme la France, c'est beaucoup trop. Donc, vu ce chiffre, automatiquement, il y a peut-être 10 films regardables dans l'année, pour un cinéphile, je dirais, je pense. Bon,
Le paradoxe, c'est que, et c'est dommage, parce qu'on n'a pas du tout parlé du palmarès, et le palmarès est plutôt bon cette année.
Ah oui.
C'est ça qui est dommage. On n'a pas parlé de cinéma. Il y a des films très différents d'ailleurs. Adieu les cons, par exemple, est un excellent film. Allez le voir.
J'ai encore l'occasion de le voir. Pandémie oblige, mais je m'en passerai d'aller le voir dès que ce sera possible, parce que les films que j'ai vus de Dupontel sont excellents. C'est un excellent cinéaste, c'est excellent comédien. Donc je pense que la récompense était vraiment méritée. Bon, les autres extraits que j'ai vus, sincèrement, ça ne donne pas envie de me précipiter devant les portes dès qu'elles seront ouvertes, hein, je vous le dis franchement. Bon, enfin, ça, c'est une affaire de goût personnel. Par contre, pour en venir à cette soirée, ce qui était positif, en dehors, effectivement, du palmarès, l'orchestre, ça a mené quelque chose. On revenait au bon vieux temps, si je peux me permettre, où il y avait des orchestres à chaque César, style Michel Legrand et tout. Et les chanteurs et chanteuses qui sont venus ont vraiment amené du positif dans la soirée. Mais en dehors de ça, franchement, le cinéma français et la profession ne s'est pas grandi dans cette...
La fille au bracelet, par exemple, c'est un excellent film.
Pardon,
La fille au bracelet, c'est un excellent film.
Ah oui, il paraît que c'est bien, oui.
Ah, franchement,
oui,
c'est formidable.
Oui.
Vraiment, je l'ai vu, c'est un film absolument formidable. Donc, il y a des films intéressants. Mignonne, c'est un film qui réussit. La bonne épouse, c'est un film original. Des films qui resteront dans l'histoire du cinéma, mais c'est déjà. Et Juliette Binoche, qui est formidable d'ailleurs dans La bonne épouse.
Eh bien, écoutez, je me promets d'aller les voir, ces films-là, lorsqu'ils passeront.
On va terminer.
Tout à l'heure, vous demandiez un précédent, excusez-moi, un précédent auditeur. J'ai vu des films récents, tu vois. Vous voyez, pour revenir un petit peu dans la réalité, j'ai quand même vu récemment des films comme Vincent, François, Paul et les autres. J'ai vu hier soir un film très récent de Luchini qui m'a beaucoup plu, qui est Un homme pressé.
Ça a très bien marché sur France 2.
Ah oui, très 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 bon film, excellent film. Voilà, donc il y a encore de l'espoir, mais malheureusement, il faut souvent se pencher sur les films passés. Voilà.
Écoutez, parce que par définition, ce que nous laisse le passé, c'est le meilleur, c'est l'écume. Et peut-être qu'on a oublié les nanars des années 75, 80, parce que par définition, ils ne passent plus. Il y en avait aussi des nanars.
C'est vrai, bien sûr que oui.
Mais bon. Peut-être ce qui a changé, c'est qu'il y avait moins de prétention. Il y avait toujours eu des mauvais films, mais aujourd'hui, il y a des mauvais films où il y a un état d'esprit. Voilà, c'est ça qui est... Bon, et c'est peut-être ça qui a changé. Bon, en tout cas, merci Jean-Claude. Merci beaucoup. On a peu entendu Greg Carannoni aujourd'hui.
C'était mieux du coup, hein ?
Non, je ne dis pas cela. Je ne dis pas ça. Mais on va continuer de parler des vaccins. Il y avait Olivier qui attendait sur les Césars. Je ne sais pas si on aura le temps de le passer. Il est 13h57, la pause et le JT. Non, pas le JT d'ailleurs.
Le Flash.
Le Flash.
Alexandre de Saint-Aignan.
Un journal télévisé à la radio, c'est rare.
Oui.
Mais le JR alors, un journal à la radio. À tout de suite. On dit pas
JR. On pourrait.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Nous sommes déjà avec Geoffrey parce qu'on va changer de sujet. On va parler du vaccin AstraZeneca avec les pompiers des Bouches-du-Rhône qui suspendent pour leurs collègues la vaccination avec ce vaccin. Geoffrey, vous êtes pompier à Valenciennes.
Oui, bonjour Pascal, effectivement.
Bonjour, vous êtes contre ce vaccin ?
Eh ben, on avait l'occasion de discuter il y a quelques temps, déjà lors de votre émission, j'étais contre. Et aujourd'hui, les derniers événements ne font qu'étayer mes doutes et mon envie de ne toujours pas me faire vacciner.
Eh bien, on va en parler ensemble. Pour le moment, c'est le rappel des titres avec Alexandre de Saint-Aignan.
La polémique continue autour du vaccin AstraZeneca. Alors que plusieurs pays européens ont décidé de ne plus l'utiliser face à la crainte d'effets secondaires, les pompiers des Bouches-du-Rhône, vous l'annonciez, suspendent l'injection de ce vaccin face à des effets indésirables sérieux. Je cite, un pompier a fait un malaise deux jours après avoir été vacciné. Aujourd'hui, il va mieux. L'Île-de-France en sursis, selon la présidente de région Valérie Pécresse. Elle appelle tous les franciliens à rester chez eux, à télétravailler dès qu'ils le peuvent, alors que les hôpitaux saturent. Une centaine de patients doivent être évacués cette semaine vers des régions moins touchées par l'épidémie. Moins 20% de morts sur les routes en février par rapport à l'an dernier. Une baisse qui serait due notamment au couvre-feu et au télétravail selon la sécurité routière. Le Conseil d'État donne son feu vert au retour des néonicotinoïdes. Ces pesticides surnommés les tueurs d'abeilles sont temporairement autorisés pour les producteurs de betteraves à sucre. Le recours déposé par plusieurs ONG a été rejeté. Jean-Vincent Placé, condamné à 5000 euros d'amende pour harcèlement sexuel selon Le Monde. En 2016, le secrétaire d'État avait notamment tenté d'embrasser une gendarme chargée de sa protection contre son gré. Et puis manque favori des Oscars. Les nominations viennent d'être dévoilées à Los Angeles et le dernier film de David Fincher est en tête avec 10 statuettes potentielles. La célèbre cérémonie du cinéma mondial est prévue le 26 avril prochain. La météo. Encore du soleil demain autour de la Méditerranée, protégé par le Mistral et la Tramontane. En revanche, ce sera encore beaucoup plus nuageux sur le reste du pays. Un ciel encombré avec parfois des pluies faibles mais continues ou des averses. Côté température, 5 degrés à Belfort, 7 à Lille, 10 à Paris. Il fera 11 degrés à Cherbourg et 15 degrés à Nice.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Merci Alexandre de Saint-Aignan. Nous sommes donc avec Geoffrey. Geoffrey, ce vaccin AstraZeneca, il a mauvaise presse. Je voudrais quand même dire, avant de vous donner la parole, il y a eu 11 millions d'Anglais vaccinés, il n'y a pas eu un souci. Il y a eu 5 millions d'un lot, visiblement, qui a servi à vacciner un très grand nombre important de personnes, et il y a eu 30 cas de coagulation, si j'ai bien compris, et une personne, hélas, qui est décédée. Bon. Donc, on est sur des statistiques classiques après un vaccin lambda. Et malgré cela, vous êtes réticent, Geoffrey.
Alors, oui, Pascal, effectivement, j'étais déjà réticent quand les vaccins ont commencé à sortir, hein, parce que moi, j'étais plutôt sur ce que le gouvernement nous avait dit, hein, c'est-à-dire tester, isoler, traiter. Et en fin de compte, on est arrivé sur un modèle où on confine et on vaccine, à tel point qu'aujourd'hui, on met la pression sur les soignants, sur les pompiers, pour se faire vacciner. Et en plus, aujourd'hui, on emploie même les pompiers pour vacciner les gens. Hein. Donc, quand on s'est battu pour nos retraites, on était capable de nous gazer, nous matraquer. Et aujourd'hui, on vient nous faire de la laisse pour vacciner le reste de la population. J'étais contre ce vaccin. Je suis toujours contre.
Mais oui, mais pourquoi ?
On va revenir à la discussion que nous avions déjà eue il y a quelques temps. C'est que je n'ai pas confiance en le gouvernement qui m'oblige, qui nous met la pression pour nous faire vacciner. Est-ce que c'est le même gouvernement qui nous a dit que le vaccin, le masque...
Mais ce n'est pas que le gouvernement français, pardonnez-moi de vous couper Geoffrey, ce n'est pas que le gouvernement français, c'est le monde entier se vaccine. Comment on fait pour sortir de cette pandémie si tout le monde raisonne comme vous ?
Eh bien, on regarde dans les pays où on a traité les gens, on regarde également les pays où on a interdit...
Il n'y a pas de traitement, Geoffrey, il n'y a pas de traitement.
Ça, c'est votre discours.
Ah bah non, je n'ai pas un discours, là. Attendez, arrêtez.
C'est votre discours, mais il y a des pays comme l'Inde, il y a d'autres pays dans lesquels on a traité les gens. Et nous, en France, on ne veut pas utiliser les médicaments dans les pays dans lesquels on a utilisé les médicaments pour traiter.
Mais Geoffrey, s'il y avait vous pensez vraiment, sérieusement, moi je vous assure, vous pensez vraiment que s'il y avait un médicament qui traitait les gens malades du Covid, le gouvernement ne le mettrait pas en place ? Mais quel est son intérêt ? De tout fermer ? De faire des dettes pour le monde entier, pour le monde des générations suivantes ?
On est sur une décision médicale, on est sur une décision politique. On a un gouvernement qui a décidé de mettre en place le confinement. Et aujourd'hui,
mais il ne le met même pas, Geoffrey. Mais Geoffrey, ce que vous dites, c'est même pas vrai. Geoffrey, écoutez-moi. Geoffrey, écoutez-moi. Ce que vous dites n'est pas vrai. Emmanuel Macron se bat pour ne pas reconfiner. C'est l'exact contraire depuis 2 mois. Il se bat contre des médecins. Il se bat contre parfois des politiques. Il se bat même parfois contre ses propres premiers ministres.
Vous savez, Pascal. Si se battait tant que ça, on n'aurait pas déjà des régions ou des départements qui seraient de nouveau confinés.
Mais il y en a deux.
Ah, ben oui. Et donc là,
et l'Île-de-France, il fait tout pour que ne pas être confiné. C'est ça qui est. Moi, je vous assure, dans ces discussions, ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression que vous et puis d'autres, vous arrivez avec des préjugés. Et quoi qu'il arrive, rien ne vous fera changer d'avis.
Ah non, non, c'est pas sur des préjugés.
Et ça fait 2 mois qu'il se bat pour ne pas reconfiner.
Chacun voit toujours midi à sa porte.
Non mais, répondez précisément, ça fait 2 mois qu'il se bat pour ne pas reconfiner. Delfrécy lui a dit reconfiné. Il y a des médias même qui demandent le reconfinement.
Mais comment vous expliquez qu'il y a plus de cas sur l'île de France et qu'on n'a pas, confiné les gens et qu'il y avait moins de cas dans le Pas-de-Calais et on a confiné les gens?
Je peux vous donner la raison de ça. Parce que on considère que l'Île-de-France c'est le poumon économique de la France et que c'est très compliqué de confiner 12 millions de personnes.
Donc on est bien sur une décision politique et non sur une décision sanitaire.
Ben évidemment que c'est politique, voilà. Je veux dire, toute décision d'un président de la République est politique, que voulez-vous qu'il fasse ?
Donc voilà, ils ont décidé, du coup on s'écarte un peu de l'histoire.
Ben, on est au cœur du sujet, c'est une décision politique de ne pas reconfiner, oui.
Enfin bon, moi, j'ai pas du tout confiance, de toute façon.
Ben, j'ai bien compris, mais il y a un moment, il faut apporter des arguments, parce qu'autrement...
Quelque chose de tout bête. Aujourd'hui, on nous dit que l'OMS nous dit qu'il n'y a aucun problème avec le vaccin, l'AstraZeneca. Il ne faut pas vous dire qu'aujourd'hui, qu'on a quelqu'un qui se trouve à l'OMS, qui s'appelle Madame Buzyn, qui nous avait dit que c'était une simple grippe. Et c'est cette même personne aujourd'hui qui est à l'OMS et qui vient également me dire à moi aujourd'hui que l'AstraZeneca, il n'y a aucun problème. Donc, et permettez-moi d'avoir quelques doutes sur le fait de ne pas vouloir me faire vacciner par ces personnes qui m'avaient tenu un discours complètement incohérent il y a un an.
Mais Geoffrey, il y a plein de gens qui pensent comme vous. Plein. Je trouve ça d'ailleurs, pour tout vous dire, dommage. Parce que d'abord, ce qui était dit le 15 janvier, c'est pas parce que tu as dit une chose qui ne s'est pas avérée qu'un an plus tard. Sur le vaccin, moi, c'est les faits qui m'intéressent. Vous avez 11 millions d'Anglais vaccinés. Il n'y a pas un souci.
Expliquez-moi pourquoi. Donc, ça veut dire que tous les pays qui aujourd'hui décident d'arrêter, par exemple, l'AstraZeneca, ne sont faits que de gens qui s'appellent Monsieur Geoffrey, quoi. C'est ce que vous êtes en train de me dire.
Non,
mais
vous avez parfaitement raison, Geoffrey. C'est un excellent argument.
Ces gens-là, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, parce qu'il n'y a pas un pays, mais bien plusieurs pays qui ont bloqué la vaccination avec l'AstraZeneca. Et moi, c'est marrant parce que c'est spécialement ce vaccin-là qu'on me propose dans ma profession.
Mais non, mais ce que vous dites est un excellent argument. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu le Danemark, la Norvège suspendre l'AstraZeneca, je me suis dit, ceux qui déjà sont défiants vont utiliser cet argument pour être encore davantage défiants. Et c'est ce que vous avez dit, Geoffrey. Je ne peux pas vous répondre à ça. Vous avez raison. Précisément, vous avez raison. C'est le principe de précaution poussé jusqu'à l'extrême. Il est 14h09, mais c'est intéressant le dialogue qu'on a avec Geoffrey, parce que Geoffrey, je suis persuadé que beaucoup de gens, en fait, pensent comme lui. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On continue la discussion sur le vaccin. Geoffrey, notre ami pompier, il va peut-être revenir, mais Christophe voulait donner son avis puisqu'il s'est fait vacciner avec l'AstraZeneca. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Tout va bien ?
Tout va bien. Je me suis fait vacciner donc samedi matin, donc une première injection. Et
AstraZeneca, donc,
AstraZeneca, oui, tout à fait. Et donc, je n'ai aucun effet secondaire. Donc, c'est pour ça que je voulais témoigner, parce que c'est usant, je trouve, cette campagne anti-vaccin de cette marque. Donc, moi, je n'ai pas d'intérêt dans le groupe AstraZeneca, mais je trouve ça un petit peu usant quand on compare ce que vous disiez dans le débat, quand on compare le nombre de personnes vaccinées, le nombre de personnes ayant eu des problèmes. D'autant plus qu'on ne sait pas exactement s'il y a un véritable lien de causalité entre le vaccin et puis l'incidence qu'il y a eu sur les personnes.
Bah, effectivement, c'est ce que disent les médecins, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une thrombose, il y en a, on ne sait pas si c'est lié, parce qu'il aurait peut-être eu sa thrombose sans le vaccin, puisqu'il il rentre dans les statistiques. Mais c'est tellement infime le nombre de problèmes qu'il y a eu, qu'on considère que c'est dans les statistiques d'un vaccin classique.
Voilà, donc je trouve ça un petit peu usant, ce matraquage permanent contre le vaccin, puisque pour moi, il faut que... Moi aussi, j'avoue, samedi matin, j'ai eu un petit peu de... Pas de stress, mais une petite appréhension quand même par rapport à tout ce qu'on entend au quotidien. Donc c'est vrai que ça interpelle un petit peu. En fait, donc j'ai dit, il faut le faire parce que c'est pour me protéger moi et protéger les autres. Parce que je pense qu'il faut qu'on pense aux autres. Et puis en même temps, c'est pour sortir, parce qu'on ne peut pas éternellement avoir des masques, être confiné. Et il faut avancer, il faut sortir notre pays au niveau économique, au niveau social, parce qu'en fait, il y a toutes les relations sociales qui sont bloquées. C'est très anxiogène, je trouve, au quotidien, même quand on travaille en présentiel. Et je pense que le seul moyen, c'est qu'on se fasse vacciner, que chacun y mette du sien et pense à l'intérêt général.
Pourquoi vous êtes vacciné? Vous avez 50 ans?
Parce que j'ai une comorbidité, voilà.
D'accord.
Je suis dans la liste des comorbidités. Et donc, ce que je voulais dire aussi, moi, je suis vacciné depuis 1995. J'ai le vaccin anti-grippe non-stop. J'ai fait le SRAS 1, j'ai la fièvre jaune, j'ai un vaccin pour les poumons, enfin, contre le problème de poumons, etc. J'ai tous les vaccins, entre guillemets, très possibles. Je n'ai jamais fait une réaction. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut, il faut pas généraliser. Je veux dire, il y a effectivement des gens qui ont des réactions contre la grippe, etc., par rapport à une substance ou autre. Et puis, la majorité des cas ne pose aucun problème.
Bah, merci de ce témoignage, Christophe. Jean-Michel également s'est fait vacciner. Il habite la Vienne. Il est agriculteur. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes fait vacciner quand ?
Je me suis fait vacciner il y a 10 jours.
Bon, et comment ça va ?
Oh bah écoutez, j'ai eu quelques petits désagréments le lendemain, mais rien de comparable avec la soirée des Césars qui était acerbée.
Oui. Vous souhaitez parler du vaccin ou des Césars ?
Avec vous, Pascal, on peut parler de tout. Mais plus exactement pour le vaccin. L'auditeur précédent, dont je ne me souviens plus du prénom, a bien résumé la situation. Il faut qu'on se fasse vacciner parce qu'il faut qu'on sorte de ce foutoir. Il n'y a pas que du désagrément avec cette maladie. On ne peut plus sortir, on ne peut plus travailler. Notre pays est dans un endettement épouvantable. Déjà, il y a 2, 3, 4, 5 ans, on nous disait... Quel pays on va laisser à nos enfants ? Eh bien, les problèmes ont été multipliés par combien ? Par 10 ? Et puis, on en est toujours à hésiter pour trouver une solution. Je pense que, Pascal, l'erreur vient du fait qu'on nous a longtemps fait croire que tout ce qui était naturel était bien et que tout ce qui était fait par l'homme était mal. Et du coup, ça a instauré de la méfiance jusque dans les vaccins. C'est-à-dire qu'on se méfie des vaccins parce que c'est les intérêts de AstraZeneca, c'est les intérêts de Pfizer, c'est les intérêts de je sais pas quoi. À chaque fois, on n'essaie pas de mesurer l'utilité d'un produit, mais on essaie de trouver pour quelle mauvaise raison, on aurait fait un produit. Et ça, c'est valable pour les vaccins. C'est terrible. Ça fait preuve d'une jachère, même d'une friche scientifique dans nos esprits qui est épouvantable. Mais moi, je suis très content d'être vacciné. Alors, je suis comme l'auditeur précédent.
Christophe.
Je fais du diabète de type 1. Donc, je suis dans cette, on va dire, dans la deuxième vague de personnes vaccinées. Mais je peux vous dire que quand on faisait, je ne sais pas si vous avez fait votre service militaire, mais moi qui l'ai fait, on était vacciné la semaine d'incorporation avec un truc qui s'appelait le TABDT. Alors là, c'était autre chose en matière de d'effets secondaires. D'ailleurs, même les militaires qui sont pas forcément des enfants de cœur nous précisaient bien le lendemain du vaccin, le jour du vaccin, le lendemain, tenez-vous tranquille, parce que c'est vrai qu'instaurer un vaccin, ça, ce n'est pas anodin. Ça peut éventuellement fatiguer un petit peu l'organisme. Donc surtout, n'en rajoutons pas. C'est vrai que le lendemain, moi qui suis agriculteur, bon, je suis pas allé ramasser des pierres, vous comprenez. J'ai fait un boulot plus tranquille. Parce que je savais que, justement, qu'en fatiguant le corps, on pouvait peut-être déclencher certains effets indésirables. Mais je suis très content de me faire vacciner. J'espère que tous mes amis se feront vacciner. Comme ça, on pourra faire des barbecues, des choucroutes, on pourra se baigner dans des piscines, on pourra aller au cinéma, au théâtre et partout. Qu'on ait une vie normale et puis qu'on puisse aussi un peu travailler, parce que si on travaille pas, un jour on sera complètement à sec et puis il y a les Chinois qui viendront faire le travail à notre place et on n'existera plus.
Ben merci. Vraiment, merci, là encore, merci beaucoup pour votre témoignage. Je précise que Florian Zeller a reçu 6 nominations pour les Oscars. Florian Zeller, il est écrivain, il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des romans, mais il est effectivement connu ces dernières années pour des pièces de théâtre. Il avait écrit une pièce qui s'appelait « Le Père » en français. C'était Robert Hirsch qui l'avait joué au Théâtre Héberto, d'ailleurs. Et elle a été adaptée au cinéma avec Anthony Hopkins. Et pour cette adaptation au cinéma aux États-Unis, il a obtenu 6 nominations. 6 nominations. C'est absolument extraordinaire. Alors là, c'est vraiment la haute culture française, la belle culture française. Et l'image donnée par Florian Zeller est assez différente de celle de vendredi soir. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il concourra The Father dans la catégorie meilleur film, puisque c'est un film américain qu'a réalisé Florian Zeller. Bravo à lui. Nous avons terminé avec PSG Nantes, peut-être à 14h19. C'était pas forcément prévu, mais on va parler un peu de football, puisqu'on a Nicolas et Patrick qui sont là. Ils nous ont appelés, c'est vous qui faites votre émission. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et merci. Comment allez-vous ? Bah écoutez, ça va bien. Nantes a gagné. Alors, donc vous êtes heureux.
Vous êtes heureux, hein ? Moi, je suis heureux, hein.
Bah,
c'est un moment que j'attendais ça, hein.
Bah, vous savez que sur les 20 derniers PSG Nantes, je crois, il y avait 18 défaites.
Et pour fêter les 20 ans du dernier, la dernière victoire au championnat, je trouvais que c'était pas mal quand même, non ?
C'est vrai, vous avez raison. Le dernier titre, c'est en 2001, puisque Nantes est l'octuple champion de France, comme on dit.
Oui, 8 fois.
Oui, exactement.
Le premier, c'était 63, je me semble, non ?
Non, je pense que le premier, c'est 65. Ah, 65, 66, 73, 80, 83, 95 et 2001. Et vous voyez, je fais ça sans notes.
Il y avait les deux Coupes de France, par exemple.
Non, Coupe de France, c'est 79, une, et puis il y en a une autre en 79 et 99. Mais la première, c'est 79. C'était Nantes-Auxerre, figurez-vous. Trois buts d'Éric Pécou et un but de Oscar Müller, dit Chucho. C'était son surnom.
Mais ça ne vaut pas l'équipe de 73, quand même.
Je peux vous parler d'équipe de 73, Bertrand Neumann.
Bertrand Neumann,
Oscar. Bargas, Rio, Osman, De Michel.
Rampillon.
Bien sûr. Henri Michel. Éric Mas.
Éric Mas.
Angèle Marcos, numéro 9. Bernard Blanchet, Di Blaouette.
L'époque d'Arribal.
Ben oui, mais bon, je ne sais pas si ça va passionner les auditeurs qu'on parle du FC Nantes de 73. C'est quand même... On est pointu là, si on parle du FC Nantes de 73, ouais, cher Nicolas.
Ouais.
Bon, vous avez regardé le match hier ?
Pardon ?
Vous avez regardé le match hier ?
Pas vraiment, non. J'étais en fait, je suis un peu fanat de Netflix en ce moment, mais je me suis dit, oh, je vais quand même regarder en streaming. Et j'avais la radio et le...
Vous écoutez RTL.
En deuxième mi-temps, je dis, bon, là, j'ai rien de picote. Bon, voilà, j'ai vu le premier but marqué, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible, ça. Enfin, l'erreur de Mbappé est terrible, quand même. Mmh.
Vous écoutiez l'ami. C'était Nicolas Georgerot qui était hier soir au match.
Ouais, non, c'était un peu. Pour ça, bon, c'était une. Enfin, le foot, c'est ça, quoi.
Le foot, c'est ça.
Croire, jusqu'au bout.
Mais tout est dans la tête. C'est ça que dans le sport de haut niveau, mais c'est vrai pour tout, j'ai envie de dire, mais le sport de haut niveau, tout est dans la tête. Alors Patrick est là aussi, Patrick qui voulait saluer cette victoire nantaise.
Exactement. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bonjour à tous. C'est la première fois que j'interviens sur votre antenne, que j'écoute régulièrement. Je voulais réagir tout simplement en tant que bon chauvin nantais par rapport aux commentaires de Christelle Robière aux environs de 13h qui parlait, qui nous a volé l'exploit capital. L'exploit capital, c'est le titre de West France ce matin, puisque Nantes a gagné et c'est Nantes qui a gagné, c'est pas Paris Saint-Germain qui a perdu. Faut laisser quand même la priorité aux jeux nantais qui, à l'occasion de ce match-là, étaient quand même de bon niveau. Les commentateurs sportifs nombreux ont œuvré dans ce sens. Je voulais simplement réagir par rapport à ça parce que tout à l'heure, Christelle Robière nous a volé notre exploit capital en parlant parlant non pas de la victoire mais du homejacking et carjacking qui s'est fait en région. Donc, je disais, c'est pour une fois que Nantes gagne, fallait pas quand même passer à côté de ce bel exploit de le marquer pour les auditeurs, pas simplement du Paris Saint-Germain, mais aussi de Nantes parfois.
Je suis d'accord. La dernière fois que Nantes a gagné au Paris Saint-Germain, ça remonte à quelques années.
Oui, donc c'était un exploit capital. Donc le titre de West France, journal que vous connaissez bien, cher Pascal.
Depuis 2002, Nantes n'avait pas gagné au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Ouais. Oui, je le connais assez bien. Ils disent beaucoup de bien de moi, généralement, quand ils parlent du FC Nantes et de moi. Donc ce sont des amis.
Oui, tout à fait. Non, mais on sait bien. Et je vous dis ça d'autant que j'habite, moi, à 900 mètres du stade. Donc.
Non. Ah bah écoutez, et Nantes-Lorient la semaine prochaine. Mais je suis pas sûr là encore que ça passionne forcément tous les auditeurs. Mais c'est Nantes-Lorient quand même. Et ça sera le 18e contre le 17e.
Je voulais rebondir par rapport à l'auditeur de précédent et tout l'engouement que vous avez mis tous les deux. Donc je peux rester que sur le même entrain. Donc.
Eh ben merci Patrick.
Et bravo Nantes et puis voilà.
Et bravo à notre ami.
Et pas toujours parler que du Paris Saint-Germain.
Eh bien, bravo surtout à Laurent Tessier, puisque c'est son moment, si j'ose dire.
Vous direz ça à la fin.
C'est le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Une question a agité le standard aujourd'hui. Avez-vous été choqué par la cérémonie des Césars ? Une comédienne nue sur scène pour crier la détresse du monde culturel, des discours politiques, ces artistes étaient-ils dans leur rôle vendredi soir ? Eh bien, vous avez commencé, Pascal, par clairement gronder notre spécialiste ciné, Stéphane Boutsock.
Stéphane, vous nous aviez vendu vendredi du glamour, vendu de la beauté.
C'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement.
Ah, la vie de Louis de Funès, un spectacle en tout cas qui n'a pas plu à Monique.
Non mais attendez, Pascal. Non mais on est où là ? Pathétique, je ne reverrai jamais ces trucs comme ça.
Et Raphaël n'a pas été séduit également.
Ils sont pas là pour faire passer des messages. On est là pour récompenser des acteurs. Ça donne une image minable du cinéma français, quoi. Il y avait des passages, on se serait cru dans les égouts de Paris, quoi. C'est vrai, tribune de gauchos, tribune de bobos.
Elisabeth, la 46e cérémonie des Césars, qu'en avez-vous pensé ?
C'est ça la culture ? C'est nous montrer de la vulgarité, de dire merde, de dire je sais pas quoi, c'est ça la culture ?
Mais allez Nicolas, venez défendre les artistes qui se sont exprimés sur scène.
Ils ont réussi à faire passer leur message, et c'était le but. C'est pas du tout politique.
John est intermittent du spectacle, il a bien apprécié la cérémonie.
J'ai merci Marina Foïs et merci Corinne Massiero, parce que ça fait un an qu'on est dans la merde, excusez-moi pour le terme. Malheureusement, depuis un an, je la gagne plus ma vie.
Après tous ces échanges, tous ces débats, allez un peu d'amour Pascal dans l'émission.
Laisse-moi t'aimer.
Mais je voulais souligner.
Laisse-moi t'aimer. Toute une...
Et un peu de rire aussi. Jean-François, qu'avez-vous retenu des Césars ?
Personne n'a parlé du moment magique quand le Standil est arrivé sur scène. Ça, c'est les Césars, comme on devrait le voir plus souvent.
Et 14h26, un dernier mot, Pascal, pour la fin de journée.
J'espère que vous serez gentil avec moi.
Je suis toujours gentil avec
autrement,
vous.
Autrement, je me mets tout nu.
Soyons joueurs, Jean-Michel. Allez, soyez gentil avec Pascal.
Oh, avec vous, Pascal, on peut parler de tout.
Oh, ça, c'est beau, ça. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson qui aurait mis sûrement plus d'ambiance au César.
Merci, ami Laurent. Flavie Flamand sera habillée pour présenter cette émission. Et elle est en train d'arriver. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.